pas des rétros, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
La vigne, ben, d'un point de vue scientifique, c'est une plante, c'est la plante qui donne le raisin. Mais pour Gabriel Giroux, encaveur et vigneron à la cave d'Avou à Murat, eh ben, c'est une plante magnifique qui a plein de produits dérivés. En plus du raisin de table dont on connaît, celui qu'on connaît le mieux quand même comme produit dérivé, ça reste le vin. Des vignes, il en a entre Beauvernier et Sion, mais il vinifie également pour un ami à lui qui a les vignes à Lutry. Mais comme il s'est formé sur Vaud, il a le droit, et en plus le travail de la vigne reste gentiment le même des deux côtés du Rhône. Gabriel Giroux, on est toujours avec toi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vinification, puisque c'était ça ta formation première, on est d'accord ?
Oui, exactement.
Qu'est-ce que c'est que la vinification finalement ?
Alors la vinification, tout d'abord je pense que c'est un art déjà. Le fait de transformer du raisin en vin, puis toute la magie qui s'ensuit.
Par quelle étape il faut passer pour pouvoir justement transformer un mou en vin ?
Alors déjà, il faut avoir une bonne matière première, un bon raisin, donc une grosse année de travail à la vigne pour produire le meilleur raisin possible. Puis après, la première étape, ça va tout simplement être la fermentation alcoolique qui va permettre de transformer le sucre en alcool.
Et ensuite, on a pressé le mou, on laisse fermenter naturellement, ou bien est-ce qu'on rajoute quelque chose dedans pour aider à la fermentation? C'est quoi la pratique?
Alors il y a plusieurs pratiques possibles, mais le plus souvent on ajoute des levures pour avoir une fermentation contrôlée, puis surtout une souche de levure contrôlée, parce que sinon en fait on sait pas trop ce qui peut se développer dans notre mou en fait.
Ah, donc si on laissait en fermentation spontanée, en fait, on pourrait potentiellement avoir une bactérie qu'il y a dans l'air et puis qui viendrait changer totalement le goût du vin puis qui nous intéresserait moins.
Alors, pas forcément dans l'air et pas forcément une bactérie, plus une levure, du coup. Par exemple, j'en ai fait une cette année, une fermentation spontanée, j'ai fait un vin nature. Puis donc là, c'est vraiment une levure naturellement présente sur le raisin qui va partir. On sait jamais trop laquelle c'est, donc c'est aussi, il faut faire vraiment très attention sur ces vins. C'est très compliqué à faire.
Ok, alors on a eu cette première fermentation alcoolique. Est-ce qu'il y en a d'autres, des fermentations?
Alors, il y en a une deuxième qui est... alors, en tout cas, que moi, je fais que sur les rouges. Actuellement, on va aller les faire sur les blancs. C'est très rare. C'est la FML, la fermentation malolactique, qui va permettre...
La fameuse
FML, qui va permettre, en fait, de dégrader l'acide malique naturellement présent dans le raisin, qui est un acide qui est très vert, qui est très puissant, en fait, en acide lactique, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. En fait, c'est une désacidification naturelle du vin.
Ah, on désacidifie le vin, en fait. Et à quoi ça va servir de le désacidifier, justement ?
Alors, ça va faire qu'il sera beaucoup plus agréable à consommer. Il y aura moins cette acidité qui prend vraiment très fort, et puis ça va aussi amener beaucoup de gras, de la rondeur, de la complexité au vin, donc tout ce qu'il faut pour faire un bon vin.
Et puis est-ce que c'est ça qui va déterminer aussi si le vin va être on va pouvoir le garder, ça va devenir un vin de garde ou pas du tout?
Pas du tout, parce que l'acidité conserve le vin. Donc finalement quand la fermentation malolactique n'est pas faite, théoriquement il devrait mieux se garder, mais après ça reste très ça reste très secondaire.
Et puis au niveau des saveurs, on va peut-être pas avoir tous ces développements, je veux dire le vin va bien se conserver effectivement, mais on n'aura pas tous les goûts qui font l'intérêt de ce breuvage.
On va quand même avoir des jolies évolutions, mais c'est des évolutions différentes sur un produit à la base qui est différent. Donc typiquement sur les rouges où c'est quasiment tout le temps fait, la fermentation malolactique, généralement c'est les rouges qu'on garde, donc en plus...
Ça a du sens,
exactement.
Et puis bon, ok, on a fait la fermentation malolactique, c'est quoi l'étape d'après ?
Alors l'étape d'après, ben, il y a plusieurs stabilisations à faire, déjà une stabilisation chimique, si on fait un vin qui contient des sulfites, donc ce qui va pouvoir nous permettre d'en fait stabiliser notre vin au niveau microbiologique, pour pas qu'il y ait de bactéries ou de levures qui se redéveloppent et puis qui fassent que le vin parte en couille, en fait.
Ouais, vraiment, qui se referment et puis qui sont plus bon.
Exactement, ça va aussi nous éviter l'oxydation. Donc, voilà, une étape qui est extrêmement importante, parce que sinon, notre vin, il serait absolument dégueulasse.
Ok. Et puis ensuite, on continue. Fais-moi le déroulé, parce que là, je bois tes mots.
La stabilisation physique, c'est une stabilisation qui va surtout prendre du temps, et puis où on va essayer de refroidir le vin le plus possible pour le stabiliser protéiquement, tartriquement. Donc plusieurs stabilités qui sont aussi importantes. Puis,
Et justement, ça peut prendre plus ou moins de temps, cette stabilisation physique, ça va dépendre du vin, ou bien est-ce que c'est l'encaveur, le vigneron encaveur qui dit à ce moment-là, je change, j'arrête, enfin voilà, c'est moi qui donne la barre.
Alors ça, c'est une question un peu compliquée, parce que c'est, comme là, j'explique en gros les différentes étapes de la vinification, très en gros juste les fermentations. Mais chaque vinificateur, chaque vigneron va le faire totalement différent, va le faire comme il pense que c'est le mieux, puis surtout quel produit il va avoir à la fin. Donc on aura des fermentations plus ou moins longues, des stabilisations plus ou moins longues, ça dépend beaucoup du produit final qu'on veut.
Donc là, la notion d'art prend tout son sens.
Ah oui, parce qu'il y a des il y a pas qu'une façon de vinifier, c'est un milieu qui est tellement énorme, tellement infini que c'est compliqué de donner un seul procédé, en fait.
Ouais, et puis en plus de ça, on y met du cœur, parce que j'imagine que le vinificateur ou la vinificatrice qui se dit « Ok, j'ai envie d'arriver à ce résultat-là », il y a déjà une intention, en fait, dès le départ.
Ben oui, c'est clair qu'on y met tout notre cœur, parce qu'on commence, cette année 2024, on commence tout début de l'année à tailler la vigne pour un produit qui sortira, en tout cas pour ma part, minimum en mai de l'année suivante.
Ah ouais.
Donc c'est un procédé qui est extrêmement long, puis qui est commencé plus d'une année à l'avance pour un produit final qu'on veut.
Donc en fait, l'intention, elle démarre déjà au mois de janvier.
Elle démarre déjà au mois de janvier sur notre façon de travailler à la vigne.
Ouais. Ouais, déjà bien avant en fait de presser le raisin.
Oui, bien avant, même bien avant d'avoir du raisin et même tout simplement de la végétation sur la vigne.
Ah ouais, donc en fait c'est plusieurs étapes, mais chaque étape est extrêmement pointilleuse.
Chaque étape est extrêmement pointilleuse, on peut rien laisser au hasard. Puis surtout
La météo peut-être.
À part la météo, ça on gère pas trop, mais surtout je disais qu'on réfléchissait à partir de la taille en janvier, ce qui est pas totalement vrai, parce qu'il y a aussi la plantation. Si on plante de nouvelles vignes, là par exemple, j'en ai planté des plantes Solaris, donc un cépage résistant. Je l'ai planté en avril. Avant 3 ans, il ne va rien me produire.
Ah ouais ?
Donc, en plus de ça, je pense déjà au produit que je vais faire à partir d'une plantation que je viens de faire et qui, avant, du coup, 3 ans, ne me donnera pas de raisin. Puis, du coup, qu'il me faudra encore une année pour avoir en bouteille. Donc, c'est vraiment des perspectives assez, assez lointaines.
Ah oui, effectivement, ouais. Et en parlant de perspectives lointaines, quand tu dis « Ok, j'aimerais bien avoir un type de vin qui aille un petit peu dans ce sens-là », est-ce que tu as le goût en bouche, pour ainsi dire, le goût en tête, ou plutôt des caractéristiques scientifiques ? Est-ce que tu vois ma question ou pas ?
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense, alors, pas tellement des caractéristiques scientifiques, parce que finalement, c'est les caractéristiques scientifiques, c'est pas ce qui fait qu'on apprécie le vin, donc c'est vraiment, je pense, notre ressenti personnel et puis ce qu'on veut transmettre à travers ce produit, en fait. C'est vraiment ce qui va nous plaire à nous, ce qui va plaire aussi aux gens.
Donc tu anticipes un petit peu la saveur que va avoir le vin, tu te la crées quelque part dans une image gustative dans ta tête ?
Oui, donc il y a tout le côté saveur, justement, donc gustatif, mais il y a aussi tout le côté de l'acidité que je veux plus ou moins avoir, la concentration, les tanins, il y a énormément de choses, et puis ça sont importantes dès le début du travail de la vigne pour les faire comme je veux, en fait.
Puis attention, question piège, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon vin ? C'est quoi le secret ?
Pour faire un bon vin ?
C'est quoi la recette secrète ? Je sais pas, ou l'ingrédient secret, je sais pas, ou...
De la passion ?
Ouais.
De l'amour, et puis de manière plus technique, un bon travail de la vigne et un bon travail à la cave.
Ah ok, bon, en parlant de bon travail, tu m'as amené ici 3 bouteilles, sérieux, je crois que je vais commencer à inviter que des vignerons et des encaveurs, parce qu'à chaque fois il m'amène un petit truc à déguster. Qu'est-ce que tu m'as amené là exactement ? J'ai 3 magnifiques bouteilles.
Alors je t'ai amené un peu les vins un peu de base de la cave, je savais pas ce que t'appréciais, donc déjà un petit panel de dégustation. Donc là il y a un fendant de Létron, une petite arvine de Savièse et un gamay de Beauvernier.
Oh, magnifique, magnifique. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup surtout pour nous avoir expliqué un petit peu ce que c'est que ce métier qui a l'air complexe et en même temps, à te regarder, pour toi, ça a l'air d'être méga clair.
C'est pas que c'est méga clair, c'est que c'est pas pour rien que c'est un métier, puis c'est surtout une passion. Donc dans ce métier, sans passion, on peut absolument rien faire. Déjà, les heures qu'on fait pendant les vendanges, c'est juste pas tenable si on n'est pas passionné. Puis voilà quoi, c'est que de la passion, c'est que du plaisir en fait ce métier.
Et je retiens surtout l'ingrédient secret, c'est la patience, l'amour et le travail bien fait. Merci infiniment Gabriel Giroux. Je rappelle que tu es un vigneron en caveur, que tu es jeune, ça mérite de le souligner. T'as seulement 19 ans et t'as quand même déjà ouvert la cave d'Avou à Murat avec ton papa. Merci infiniment d'être venu nous expliquer que c'était de la vigne, mais également la vinification. Je te souhaite une excellente soirée.
Ah, excellente soirée, merci beaucoup pour l'invitation.